Nous parlons maintenant de la SAS, qui est la société par action simplifiée. C'est une forme de société qui est moderne parce qu'elle a été créée il y a relativement peu. Elle a été introduite dans notre code de commerce en 1994. D'ailleurs, dans la loi de 66 en réalité, parce que vous le savez, notre code de commerce, la recodification date de 2000. Donc la SAS a été introduite en 1994 et au départ, c'était une société de société. C'est-à-dire qu'on avait voulu faire une structure souple pour que les sociétés puissent mettre en place des filiales communes dans des conditions plus simples que celles de la société anonyme. Et puis, en 1999, on a ouvert la SAS, c'est-à-dire qu'avant, elle devait être constituée par, pour faire simple, des sociétés d'une certaine taille. Et puis, on a décidé que c'était désormais toute personne physique ou morale qui pouvait constituer une SAS. Le trait marquant de la SAS, c'est qu'elle donne un très grand rôle à ses statuts dans deux domaines, qui sont celui de la direction et du contrôle de la SAS, et dans le domaine des décisions collectives. Il faut imaginer que, par rapport à la société anonyme, on ait retiré tous les textes relatifs au conseil d'administration et au directoire et au conseil de surveillance, et les textes relatifs aux assemblées générales d'actionnaires. Donc, dans ces domaines, direction, contrôle et décisions collectives, la SAS s'organise comme elle le souhaite, ou presque, parce qu'il faut qu'elle ait tout de même un président. C'est une figure imposée. Il faut que l'on sache qui est le représentant légal de la SAS. Donc elle doit avoir un président. Et ce président, la loi est venue préciser qu'il pouvait être assisté de directeurs généraux ou directeurs généraux délégués. Mais à côté de cela, on peut créer, par exemple, un conseil d'administration ou ce que l'on voit beaucoup, un comité exécutif avec des pouvoirs que les statuts vont définir. Mais on peut créer une infinité d'autres organes qui vont suppléer, assister, contrôler les organes qui seront le président ou les directeurs généraux ou DGD de la SAS. Donc on a de très grandes possibilités en réalité. Et à côté de cela, on a aussi de la liberté pour organiser la prise des décisions collectives par les associés. Par exemple, on n'aura pas nécessairement des assemblées proprement dites, mais on pourra avoir des consultations écrites des associés ou pourquoi pas des consultations qui se dérouleront par Internet. Ce qui est important quand même, c'est de s'assurer que l'on a toujours une véritable prise de décision collective. Il faut que les associés aient la possibilité d'échanger et que l'on soit sûr que ce sont bien les associés qui échangent véritablement lorsque la SAS voit les associés prendre des décisions collectives. Donc les deux traits marquants, enfin les deux domaines de liberté, ce sont ceux-là, c'est liberté statutaire pour la direction et le contrôle et pour les décisions collectives. On a voulu aussi, dans le statut légal, ce sont les articles L227-1 et suivants, on a voulu aussi faire remonter les pactes d'actionnaires dans les statuts, c'est-à-dire que l'on a prévu un certain nombre d'articles dans le code de commerce qui vont autoriser expressément les clauses d'exclusion d'un associé de SAS ou la clause d'inaliénabilité des actions d'un associé de SAS avec une durée maximum de 10 ans. Donc voilà, on a voulu sécuriser des mécanismes que l'on avait avant la SAS dans les pactes d'actionnaires et que l'on peut mettre désormais dans les statuts de la SAS. Donc c'est une société qui a ses traits particuliers, mais qui est quand même assez largement soumise aux mêmes règles que la SA. C'est-à-dire que, hormis ces textes que l'on a évoqués et qui ne sont pas applicables à la SAS, vous avez à l'article L227-1 du Code de commerce l'indication selon laquelle, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues pour la SAS, eh bien, les textes sur la société anonyme, à l'exception essentiellement de ces textes sur les organes de direction et de contrôle et des textes sur les assemblées sont applicables à la SAS. Parfois, cela veut dire que l'on aura du mal à comprendre clairement comment fonctionne la SAS, parce qu'il faudra lui faire application tout à la fois de règles spéciales, L227-1 et suivant, des règles prévues par les statuts, et des règles du droit commun des sociétés, et des règles aussi de la société anonyme, dans la mesure où elles sont applicables et compatibles avec le statut de la SAS. C'est une société qui connaît un grand succès parce que c'est une société qui est à la fois une société par action, avec les avantages attachés aux sociétés par action. Elle peut émettre des actions de préférence. Il y a la fiscalité favorable en termes de droits d'enregistrement par rapport à la fiscalité des parts sociales, 0,1% en cas de mutation contre 3%. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont donnés à la SAS par rapport à la SARL et aussi par rapport à la société anonyme parce qu'elle est plus simple à faire fonctionner, enfin plus simple, du moins on peut la faire fonctionner plus comme on le désire en créant les organes que l'on souhaite. Voilà. Après, dans la pratique, il faut avoir rédigé les statuts de manière correcte et complète parce qu'on n'aura pas, comme dans la société anonyme, le secours de la loi lorsque l'on n'aura pas complètement prévu les règles de fonctionnement des organes de direction ou de contrôle ou les modes de prise de décision collective des associés.